soi-même. Ce sera un peu le fil de mon message. Donc pour commencer, j'aimerais vous poser la question, qui parmi vous aimerait habiter en colocation avec, disons, en compagnie de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit continuel? Que se passerait-il si c'est le cas et comment cette cohabitation évoluera-t-elle à l'avenir? Comment elle finira? On sait tous comment cette colocation elle va finir, certainement pas de la meilleure des manières. Voilà. Et donc dans ce message, on va essayer de comprendre comment éviter d'être en coloc avec des personnes toxiques, mais il ne s'agira pas d'adversaires extérieurs, mais d'adversaires intérieurs. Car il arrive fréquemment que nous soyons notre propre ennemi. Donc ce matin, on va tenter de comprendre pourquoi nous détestons parfois. Quels effets ce conflit intérieur peut avoir sur ma vie et comment nous pouvons éviter d'être notre propre ennemi. Je ne pense pas forcément amener une vérité absolue, c'est un peu le fruit de mes moments avec Dieu ou comme ça, mais c'est voilà, des réflexions personnelles que j'aimerais amener. J'avais une citation à vous montrer, mais elle n'est peut-être pas là pour le moment, mais sinon ce n'est pas grave s'il n'y a pas cette citation. On la mettra après. Donc le point 1 que j'aimerais aborder, c'est déjà, est-ce que je suis en conflit avec moi-même? Donc on va regarder d'abord notre relation aux autres, avant de regarder notre relation avec nous-mêmes. La première chose qu'on peut regarder, c'est comment on fait pour entrer en conflit avec quelqu'un, avec une autre personne. La plupart du temps, c'est assez simple. Ça commence par du mépris ou de la dévalorisation, où on veut paraître mieux que l'autre. Donc soit c'est nous qu'on méprise quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui nous méprise. Dans les deux cas, le conflit va éclater. Il y a un verset qui illustre bien cela, et on le trouve dans Proverbes au chapitre 22. C'est « Chasse le moqueur et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. » Donc si on chasse le moqueur, le conflit prend fin. Donc lorsque le conflit éclate, il prend souvent une tournure de plus en plus négative. Il y a des insultes qui peuvent commencer, qui peuvent apparaître, et puis souvent une insulte en amène une autre insulte. Puis si ça c'est pas suffisant, des fois on en vient même aux mains. Et il y a encore un verset que j'aimerais vous partager, c'est dans les Proverbes au chapitre 3. Ouais. Voilà. Ce verset-là, dans les Proverbes, on le trouve. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. En effet, battre du lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang, et provoquer la colère produit des disputes. Il est question vraiment de mettre sa main sur sa bouche, parce que c'est souvent ce que l'on dit qui va provoquer ce sang, ce lait, enfin, voilà, on comprend ce beurre, ces disputes. Donc quand on arrive à ce stade, quand il y a des grosses disputes et qu'on se met vraiment en colère avec quelqu'un, ça devient difficile des fois de revenir en arrière. On a déjà fait tous l'expérience, ça commence par un petit conflit, quelqu'un, je sais pas, nous fait une remarque, on s'énerve, et chacun y va de son insulte, on va dire ça comme ça, puis on met tous une bûche dans le feu, et puis après c'est un grand brasier, ça devient compliqué d'éteindre un grand brasier. Hein. Je pense qu'on l'a tous vécu. Donc voilà, on a vu un peu dans un conflit notre relation à l'autre, mais on va aussi regarder maintenant notre relation à nous-mêmes. On peut se poser la question, quand on me méprise, quand quelqu'un, m'insulte ou comme ça, avec qui je me fâche? Pour certains, c'est évident, ils se fâchent avec la personne avec qui ils sont en conflit. Ils vont lui répondre, lui dire « Ah, voilà, je ne vais pas répondre ce qu'ils vont lui répondre, mais voilà. » Et pour d'autres, c'est plus complexe. Certains ne répondent pas à leurs accusateurs, mais profiteront d'un moment seul avec eux-mêmes pour se dévaloriser. Ils diront peut-être « Tu es nul, Adrien, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Tu aurais dû répondre seul ici, tu aurais dû répondre cela. Tu es vraiment un incapable. » Voilà, donc au final, je suis en train de me fâcher avec moi-même, je suis en train de rentrer en conflit avec moi-même. Et une question qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce qu'on peut parler à notre âme? Là, j'ai dit, tu es nul, Adriane, donc je parle à qui? Donc, est-ce qu'on peut parler à notre âme? Et ça, il y a un verset qui nous parle de ça, qui est dans les psaumes, et c'est David qui dit, Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, dans cet exemple, qui dit, Bénis l'Éternel, mon âme? C'est mon esprit. Mon esprit dit, Bénis l'Éternel, mon âme. Donc je parle à mon âme. Ou quand des fois on dit, bah, hey, courage, Adri, tu vas y arriver, c'est qui parle à qui? Bah, c'est mon esprit qui parle à mon âme, ou Adriane à l'intérieur, entre guillemets, de prendre courage en fait. Donc on se parle à nous-mêmes. Et c'est biblique, on voit souvent même Jésus qui dit, mon âme est triste à en mourir, comme s'il y avait une dissociation. Voilà. Donc mon esprit lui parle. Donc on est un être pluriel composé de corps, âme et esprit. En effet, comment est-ce que je peux rentrer en conflit avec moi-même si je ne suis pas un être pluriel? Comment je peux dire courage Adri si je ne suis pas un être pluriel? Ce serait un peu bizarre. Et on trouve aussi ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, donc là on retrouve, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit dans ce verset, du coup, l'âme, l'esprit et le corps, et ils peuvent communiquer entre eux. Maintenant, si je regarde à moi-même, dans le Adrian intérieur, je dis l'Adrian intérieur, je pense que c'est mon âme, c'est quelque chose de profond, il y a des choses en moi que je n'apprécie pas. Peut-être qu'il y a des traits physiques ou comportementaux que je voudrais changer qui ne me plaisent pas. Ça peut être les dons que Dieu m'a donnés ou accordés. Ça peut être un objet de mépris pour moi. Peut-être que j'aime pas les dons que Dieu m'a donnés. Peut-être que je rêve secrètement de devenir un chanteur accompli et reconnu de tous plutôt qu'un passionné de mathématiques ennuyeux. Voilà. Ou un trompettiste, exactement. Ou si je prends un exemple personnel aussi. Mes oreilles ont souvent, parce que j'ai des grandes oreilles, on voit peut-être pas parce que j'ai mes cheveux, mais ont souvent été un objet, on s'est moqué de moi et tout ça. Donc en fait, intérieurement, j'ai souvent dit, ah, j'aime pas mes oreilles. Mais quand je dis ça, je dis à qui, j'aime pas mes oreilles. Donc je trouve des aspects de ma personne qui me déplaisent et sur lesquels j'ai tendance à me montrer sévère dans mon cœur. Mais pourquoi je ne les apprécie pas? Pourquoi j'ai besoin de critiquer ces choses en moi intérieurement? C'est une question qu'il faut se poser. Et le coupable, j'en avais un peu parlé aussi dans mon ancien message, mais je pense que c'est notre ego, parce qu'il veut toujours paraître juste et irréprochable. Il ne faut jamais que cela soit sa faute. Soit il va rejeter la faute sur l'autre, soit il va rejeter la faute sur une part de nous-mêmes. Si j'ai des grandes oreilles, c'est la faute de mon corps. Donc si on prend ce verset, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Donc quand vient l'orgueil, vient le mépris, on méprise quand on est dans l'orgueil. Et il y a un autre verset qui dit aussi, l'orgueil d'un homme l'humilie, l'esprit humble se saisit de la gloire. Et je pense ça aussi, bon, il y a deux manières de voir ce verset, mais je pense que c'est intéressant de se dire, l'orgueil qu'on a nous humilie nous-mêmes. C'est intéressant. Donc, quand je dis à mes oreilles qu'elles ne me plaisent pas, quand je me regarde dans le miroir et je me dis, ah, j'aime pas mes oreilles, Adriane, ou je sais pas, je suis pas très bon en dessin, ou je dirais, ah, t'es nul en dessin, Adriane, ou t'as pas réussi ceci, ah, t'es vraiment con, Adriane, on va dire ça comme ça, bah, en fait, c'est mon ego qui est en train de m'humilier et il jette la faute sur moi-même, sur des capacités de moi. Il va dire, en fait, il est en train de m'humilier pour pas que. Il est en train de dire, bah, Adrien, t'es nul, t'es moche et tout ça, mais pourquoi il a besoin de dire ça? C'est intéressant, hein? Donc, il y a un conflit qui émerge, donc le Adrien intérieur, eh ben, il n'est pas très bien. Mon ego me dénigre, il m'humilie, il me séquestre des fois, Et le Adrien qui est en moi se sent triste et en colère. Il se sent diminué et réprimé. Et ça m'amène maintenant à deuxième point. Quelles sont les conséquences de ce mépris envers moi-même? Donc la conséquence de tout cela, c'est qu'Adrien, à l'intérieur, déjà, il est triste et puis il est en colère aussi. Le conflit est né, puis ça va poser problème. Dans Matthieu 12, 25, on lit... Il me manque ce verset, bien. Ah, voilà. On lit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. » Donc on voit la difficulté dans ce verset qu'il y a à cohabiter avec des conflits internes. Le défi est que on peut pas fuir ce conflit, il est à l'intérieur, il nous va nous accompagner entre guillemets jour et nuit. Et ça va être difficile d'aller de l'avant, comme dit ce verset, il ne peut pas subsister. Donc comme notre orgueil, notre ego voit les incapacités de l'Adrien qui est en moi, à être exactement comme il voudrait qu'il soit parfait, droit comme un i, comme ça, là, bien droit comme un i, il va commencer à être de plus en plus dur avec lui pour le faire marcher au pas. Il voudra toujours faire les choses parfaitement pour ne plus être ridiculisé. Mais ce comportement n'est pas sans conséquence. On a ce verset dans Ecclésiaste qui dit « Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruire. » Cet excès nous conduit au perfectionnisme et ainsi dans une sorte de maltraitance envers nous-mêmes. Tout ce que Adrien fera ne sera jamais suffisant. Le Adrien, avec ses faiblesses, doit disparaître. Donc, enfermé dans une prison bien verrouillée, à l'abri des regards, il est impératif que personne ne voie le vrai Adrien. Ses vulnérabilités, ses sentiments, ses faiblesses. Donc le vrai Adrien, il se retrouve dans une prison un peu comme ça. Et je pense que s'il y a une chose que je suis sûr, c'est que Dieu, il veut l'en sortir de cette prison. Donc ce patron sévère, l'ego, ne laissera jamais rien passer. Toujours conciliant et doux avec les autres, c'est vrai, mais dur comme la pierre avec lui-même. Et ça me rappelle, je ne sais pas si... je pense que la plupart ici, vous connaissez bien les films de De Funès. Je n'ai pas une scène en particulier, mais je vois bien dans les films, on voit bien De Funès, il est là, puis il y a par exemple un roi qui est là, puis il fait « Oh mon roi, mais oui, vous êtes là !» Oh, vous êtes vraiment le meilleur. Et après, il a son serviteur qui est à côté, puis il lui dit Oh mon bon roi. Il y a cette hypocrisie entre la manière dont il parle au roi et la manière où il parle au serviteur. Vous voyez très bien la scène, je pense, pour ceux qui connaissent De Funès. Et je pense qu'on est exactement comme ça. On est hyper dur avec nous-mêmes, on est comme ce serviteur, on se fout des coups de fouet dans la niche, puis avec les autres, ah mais oui, oui. Donc on est un peu comme ça. Je pense. On est un peu schizophrénique, je crois. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Donc, mon moi intérieur ne finira par éprouver que de la condamnation. Il aura l'impression qu'il n'est bon à rien et il perdra toute confiance en lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'une personne n'ait pas forcément confiance en vous. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais quand une personne n'a pas confiance en vous, en fait, vous allez échouer, enfin très souvent, parce que vous sentez qu'elle n'a pas confiance en vous, donc vous allez échouer, puis cette personne va venir vers vous, puis elle va dire « Bah tu vois, je te l'avais bien dit ». C'est un peu bizarre, hein, mais c'est un peu ce qui arrive. Et puis moi, j'ai vécu ça un peu avec mon premier patron, où il avait pas vraiment confiance en moi, et vraiment, j'échouais. Et du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un cercle vicieux. Donc notre ego pourra alors nous dire, tu vois Adrien, je l'avais bien dit, t'es vraiment nul. Notre moi intérieur va alors sombrer dans une tristesse extrême. Et cette tristesse se matérialisera par certainement des dépressions, des problèmes de santé, une vie instable, Avoir l'impression de faire du surplace, de ne jamais avancer. Ben c'est vrai, comment on peut être heureux et aller de l'avant quand on est maltraité? Puis, après, ça c'est ma réflexion, mais je pense qu'on peut en arriver à un stade vraiment très avancé où ben, notre orgueil, il nous déteste tellement, il nous déteste tellement qu'en fait, il va commettre un meurtre, et je pense que c'est le suicide. L'ego va tuer cet Adrien intérieur qu'il déteste et méprise. Ça l'insupporte de vivre avec quelqu'un d'aussi qui le ridiculise constamment. Après, j'aimerais aussi voir un peu l'autre côté. On a parlé justement que ça amène dépression, que ça amène voilà, plein de problèmes. Mais de l'autre côté, justement, si je prends l'exemple de mon ancien patron, c'était quelqu'un qui travaillait comme un fou. Il travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas, 12 heures par jour, voire plus. Et je me disais toujours, mais comment il fait pour ne pas faire de burn-out? Comment il fait pour ne pas tomber dans la dépression? Comment il fait pour ne pas... Ouais, pour ne pas péter un câble, quoi. Je ne sais pas, on peut dire ça comme ça. Et puis, en fait, je me suis dit, c'est drôle, mon patron... Jamais, 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 il va rejeter la faute sur lui-même. Ce sera toujours la faute des autres. S'il est en retard, c'est la faute des autres. Ils n'auraient pas dû mettre un rendez-vous aussi rapide. S'il n'a pas réussi à faire un travail, ah, c'est la faute des autres. Ils ne m'ont pas donné un délai assez long. Jamais, jamais, il va se mettre la faute sur lui-même. Et je trouve intéressant parce qu'en fait, il le fait à l'extrême. Ce n'est pas forcément quelque chose à suivre. Mais ça fait quelqu'un qui n'a pas de problème de santé. Bien sûr, il a des problèmes de santé physique, il est fatigué, mais il n'a pas des problèmes de santé mentale. Parce que son homme intérieur, il est pépère, personne ne l'insulte, hein, personne ne lui dit qu'il est mauvais. Et voilà. Donc je voulais vous montrer maintenant un peu un graphique auquel j'ai pensé. Donc, vous voyez, il y a le respect pour moi, j'ai mis à peu près 20, puis le respect pour les autres, j'ai mis 80. Et donc, il y a, des fois, on est un peu de cette personne-là. Voilà. Ça fait justement c'est des personnes qui, je pense, des fois, ont de la peine à avancer, ont des problèmes de santé, c'est difficile. Et puis, il y a aussi ce graphique-là. Ça, c'est le graphique Donald Trump, je pense. Le respect pour moi, puis le respect pour les autres. Et du coup... Ce genre de personnes-là, souvent, ils n'ont pas forcément de problèmes santé mentale, on va dire ça comme ça. Alors, ils ont d'autres problèmes, parce que ça crée des conflits autour d'eux, personne ne les aime et tout ça, mais au niveau intérieur, ils sont assez tranquilles, en général. Et je pense que Dieu aimerait plutôt qu'on puisse être ces personnes-là, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas extrêmes ni l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on puisse avoir exactement le même respect qu'on a pour nous-mêmes que pour les autres. Pas à l'excès, il ne faut pas trop s'aimer nous-mêmes, ça ne sert à rien, mais pas non plus être hypocrite et aimer l'autre comme si c'était... Mais qu'on puisse équilibrer les deux. Et je prends ce verset. Voilà, donc la question c'était, alors comment trouver ce juste équilibre? Et là on arrive au point 3. Donc comment on fait pour s'aimer concrètement? Et là je mets le verset. Et voici celui qui vient au second rang, donc c'est dans Marc 12. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc c'est intéressant de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut noter que ça peut aussi vouloir dire tu aimeras au même niveau que toi-même. Vous voyez, c'est pas un là et un là. Tu l'aimeras au même niveau que toi-même. Si tu traites bien les autres, pourquoi ne te traites-tu pas bien toi-même? Donc si on se pose la question, comment on peut faire si on se retrouve dans le graphique où on n'a pas d'amour pour nous, on va dire ça comme ça, comment on peut faire pour déjà réconcilier deux personnes qui ont de la haine l'un envers l'autre? La première chose qu'on peut faire, c'est se pardonner ou se demander pardon. Pardonner, ce n'est pas une tâche aisée, il faut du temps, et notre homme intérieur aura également besoin de temps pour accepter notre demande de pardon. Il aura besoin de temps si on veut lui pardonner, si on veut qu'il nous pardonne, on aura besoin de lui dire pardonne-moi, il aura besoin de temps pour nous pardonner. Mais persévérons et il nous pardonnera. Et moi, une fois dans ma prière, ça m'est venu comme ça un peu. Mais pardonne-toi, Adrien. Demande pardon à cet Adrien intérieur. Demande-lui pardon pour toute la pression que tu lui as mis, pour tout ce poids que je lui mettais. Tu dois, il faut. Demande pardon parce que tu lui as mis un tel poids sur les épaules. Et puis je l'ai fait. J'ai dit, Adrien. Je te demande pardon pour toute la pression que je t'ai mis, Puis j'ai vraiment senti à l'intérieur comme un soulagement fou, comme si c'était quelqu'un qui attendait ça depuis je sais pas combien de temps. C'était assez fou. Et c'était vraiment agréable. Et puis je me dis, j'essaye maintenant régulièrement de faire ça, de dire, Adrien, je te demande pardon. Même quand si maintenant je dis, ah, je suis con, je sais pas quoi, je dis, mais en fait, Adrien, je te demande pardon, j'ai pas à dire ça. Et le faire le plus souvent possible. Donc on a ce verset dans Éphésiens qui dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Donc comme cela est dit dans ce verset, de même qu'on le fait pour les autres, eh ben, on peut le faire pour nous-mêmes aussi. On peut se valoriser, on peut arrêter de se critiquer, cesser d'agir méchamment envers nous-mêmes. Et au contraire, on peut déborder de bonté, on peut se dire courage Adri, enfin vraiment, on peut vraiment se bénir, avoir de la compassion envers nous-mêmes, c'est pas grave, tu peux faire mieux, voilà. Et maintenant, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, c'est de me traiter comme je traiterais les autres, avec encouragement. Si j'ai pas réussi, parce que je dis, c'est pas grave, tu vas faire mieux, tu peux t'améliorer. On parle comme ça aux autres, il me semble. Hein. Ben, on peut se parler à nous-mêmes aussi comme ça. Et du coup, surtout faisons confiance, le mot est un peu bizarre, dans notre Adrien intérieur. Je fais pas du développement personnel, mais je vais essayer d'expliquer ce que je vais dire. Qu'est-ce que ça veut dire, donc? Donnons-lui des chances de s'exprimer. Disons-lui, j'ai confiance en toi, tu es capable. Alors il pourrait être libre d'être qui il est vraiment. Et ça, je pense que c'est important. C'est, si je fais confiance à l'autre, surtout si je ne lui fais pas confiance, j'emprisonne cette personne. Si je ne fais pas confiance à quelqu'un, je ne fais pas confiance à ses capacités, je l'emprisonne. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de cuisiner avec d'autres. Et bah, quand il ne fait pas comme je veux, bah, je pourrais... Ah, mais t'es sûr, il faut prendre ce couteau, t'es sûr, il faut faire ça. En fait, je l'emprisonne dans ma manière de faire et je l'empêche d'être qui il est vraiment. Cette personne, peut-être qu'elle aime hacher avec un hachoir ou faire différemment que moi, et elle a le droit d'être comme ça. Elle a le droit d'être différente de moi et elle est qui elle est. Je n'ai pas à lui imposer ce que je suis. Et de se dire, bah, en fait, je lâche prise, je la laisse cette personne être qui elle est, je la laisse faire à sa manière. Déjà, ça va faire que cette personne va faire très bien les choses. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour nous-mêmes. Parce que Dieu nous a créés, si je prends le Adrien intérieur, il a besoin que je lui fasse confiance, que je l'aime avec ses capacités, avec ses défauts. Et que j'arrête de lui dire, je veux que tu sois comme ça, tu vois. Ensuite, je pense que ça peut être super d'établir une liste de toutes les choses qu'on n'aime pas en nous, afin qu'on puisse les traiter une par une. Je pourrais dire, pardonne-moi, Adrien, de ne pas aimer tes oreilles, par exemple. Ou dire au contraire, je trouve beau, Adrien, tes oreilles, tu vois. Valoriser, mais faire une liste de toutes ces choses, parce qu'il y en a d'innombrables, hein, souvent. Enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais souvent, on en a beaucoup qu'on n'apprécie pas. Ça va prendre du temps, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Essayons de revenir souvent sur nos faiblesses pour vraiment nous réconcilier avec elles, pour nous dire, c'est pas grave si je suis faible à ça, c'est pas grave si j'arrive pas à faire ça. D'autres le font bien et moi, je n'ai pas besoin d'être parfait. Et, les mettre en et mettre en valeur ce qu'il y a de bon en nous. Et qu'on puisse dire, comme le psalmiste, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Je pense du coup qu'une des choses les plus importantes est de toujours se voir comme si on était une autre personne qui mérite du respect. Avant de te critiquer en cas d'échec, demande-toi simplement, est-ce que je dirais cela à quelqu'un d'autre qui aurait vécu le même échec? La réponse est non. Je l'encouragerais. Et cela nous permettra de voir que notre comportement envers nous-mêmes est souvent intolérable. Des fois, on se dit des choses, mais on se dit, si je disais ça à quelqu'un, mais c'est affreux. Si je dis, je suis con ou je suis incapable, si je disais ça à quelqu'un ici, ce serait affreux. Mais à nous, ça ne nous dérange pas. Enfin, en tout cas, pour nous. Voilà. Et ouais, je ne sais pas si, par exemple, quelqu'un rate un examen de conduite, on va lui dire, bah, tu feras mieux la prochaine fois. Et moi, si je le rate, je dirais, oh, je suis vraiment nul, je suis vraiment... Ça a pas de sens. Enfin, voilà, j'arrête avec ces exemples. Et dans le fond, si on fait tout ça, on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait aussi pour obéir à Dieu, qui nous demande d'aimer et de pardonner, donc de nous aimer et de nous pardonner. Donc, pour terminer, j'aimerais finir par dire à chacun d'entre nous, peu importe notre état actuel, peut-être qu'il y en a que vous n'êtes pas du tout concernés par ce que je dis, et ça c'est possible aussi, hein. Mais peu importe si on se déteste ou si on s'aime, c'est pas grave, parce que déjà Dieu il nous aime malgré tout. L'idée, c'est qu'on puisse continuer à avancer et à nous aimer davantage à l'image de l'image comme Dieu nous aime vraiment. Nous pouvons entamer ce processus en ayant confiance en Dieu qui sera là pour nous soutenir. Ce sera la santé pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Et donc n'oublions pas que Dieu nous accompagne dans ce processus. Donc il y a ce verset, voilà, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et je vous ai dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est avec nous dans ce processus de réconciliation avec nous-mêmes. Voilà. J'aimerais juste qu'on puisse peut-être faire un petit, je dirais un moment d'appel, mais je ne sais pas si le terme est juste, mais où on puisse réfléchir un peu à ça. Et j'ai remis un peu cette image du personnage dans la prison, avec un verset qui est approprié, il me semble. Et l'idée, c'est qu'on puisse réfléchir à ça. Est-ce que le Adrien qui est en moi ou celui qui est en vous, il est dans cette prison-là? Est-ce qu'il est vraiment dans une niche puis on le fouette à chaque fois qu'il essaie de dire quelque chose? Ou est-ce qu'il a de la valeur et on l'estime comme il est? Et voilà, j'aimerais vous encourager à faire sauter les verrous de cette prison et à dire à Adrien, je t'accepte comme tu es, avec tes défauts, tes faiblesses, tes manquements, t'as le droit d'être pas parfait. Et...